Chapitre 12. Un ami. Vers la fin du mois de mai 1825, Lucien avait perdu toute sa vivacité. Il ne sortait plus, dînait avec Herrera, demeurait pensif, travaillait, lisait la collection des traités diplomatiques, restait assis à la turque sur un divan et fumait 3 ou 4 houkas par jour. Son groom était plus occupé à nettoyer les tuyaux de ce bel instrument et à les parfumer qu'à lisser le poil des chevaux et à les harnacher de roses pour les courses au bois. Le jour où l'Espagnol vit le front de Lucien pâli, où il aperçut les traces de la maladie, dans les folies de l'amour comprimé, il voulut aller au fond de ce cœur d'homme sur lequel il avait assis sa vie. Par une belle soirée où Lucien, assis dans un fauteuil, contemplait machinalement le coucher du soleil à travers les arbres du jardin, en y jetant le voile de sa fumée de parfum par des souffles égaux et prolongés, comme font les fumeurs préoccupés, il fut tiré de sa rêverie par un profond soupir. Il se retourna et vit l'abbé, debout, les bras croisés. « Tu étais là ?» dit le poète. « Depuis longtemps, » répondit le prêtre, « mes pensées ont suivi l'étendue des tiennes. » Lucien comprit ce mot. « Je ne me suis jamais donné pour une nature de bronze comme est la tienne. La vie est pour moi tour à tour un paradis et un enfer. Mais quand par hasard elle n'est ni l'un ni l'autre, elle m'ennuie et je m'ennuie. » Comment peut-on s'ennuyer quand on a tant de magnifiques espérances devant soi? Quand on ne croit pas à ses espérances, ou quand elles sont trop voilées? Pas de bêtises, dit le prêtre. Il est bien plus digne de toi et de moi de m'ouvrir ton cœur. Il y a entre nous ce qu'il ne devait jamais y avoir, un secret. Ce secret dure depuis 16 mois. Tu aimes une femme. Après? Une fille immonde nommée la Torpille. Eh bien, mon enfant, je t'avais permis de prendre une maîtresse, mais une femme de la cour, jeune, belle, influente, au moins comtesse. Je t'avais choisi Madame d'Espard, afin d'en faire sans scrupule un instrument de fortune, car elle ne t'aurait jamais perverti le cœur, elle te l'aurait laissé libre. Aimer une prostituée de la dernière espèce quand on n'a pas, comme les rois, le pouvoir de l'anoblir, est une faute énorme. Suis-je le premier qui ait renoncé à l'ambition pour suivre la pente d'un amour effréné? Bon, fit le prêtre, en ramassant le bocchettino du houka que Lucien avait laissé tomber par terre et le lui rendant. Je comprends l'épigramme. Ne peut-on réunir l'ambition et l'amour? Enfant. Tu as dans le vieil Herrera une mère dont le dévouement est absolu. Je le sais, mon vieux, dit Lucien en lui prenant la main et en la lui secouant. Tu as voulu les joujoux de la richesse, tu les as, tu veux briller, je te dirige dans la voie du pouvoir, je baise des mains bien sales pour te faire avancer et tu avanceras. Encore quelque temps, il ne te manquera rien de ce qui plaît aux hommes et aux femmes. Efféminé par tes caprices, tu es viril par ton esprit. J'ai tout conçu de toi. Je te pardonne tout. Tu n'as qu'à parler pour satisfaire tes passions d'un jour. J'ai agrandi ta vie en y mettant ce qui l'a fait adorer par le plus grand nombre, le cachet de la politique et de la domination. Tu seras aussi grand que tu es petit. Mais il ne faut pas briser le balancier avec lequel nous battons monnaie. Je te permets tout. Moins les fautes qui tueraient ton avenir. Quand je t'ouvre les salons du faubourg Saint-Germain, je te défends de te vautrer dans les ruisseaux. Lucien, je serai comme une barre de fer dans ton intérêt. Je souffrirai tout de toi, pour toi. Ainsi donc, j'ai converti ton manque de touche au jeu de la vie, en une finesse de joueur habile. Lucien leva la tête par un mouvement d'une brusquerie furieuse. « J'ai enlevé la torpille. »« Toi ? » s'écria Lucien. Dans un accès de rage animale, le poète se leva, jeta le bocchinetto d'or et de pierreries à la face du prêtre, qu'il poussa assez violemment pour renverser cet athlète. « Moi !» dit l'Espagnol, en se relevant et en gardant sa gravité terrible. La perruque noire était tombée. Un crâne poli comme une tête de mort rendit à cet homme sa vraie physionomie. Elle était épouvantable. Lucien resta sur son divan, les bras pendants, accablé, regardant l'abbé d'un air stupide. « Je l'ai enlevé, » reprit-il. « Qu'en as-tu fait ? Tu l'as enlevé le lendemain du bal masqué ? Oui, le lendemain du jour où j'ai vu insulter un être qui t'appartenait par des drôles à qui je ne voudrais pas donner mon pied dans... « Des drôles ?» dit Lucien en l'interrompant. « Dis des monstres, auprès de qui ceux que l'on guillotine sont des anges. Sais-tu ce que la pauvre torpille a fait pour trois d'entre eux ? Il y en a un qui a été pendant 2 mois son amant. Elle était pauvre et cherchait son pain dans le ruisseau. Lui n'avait pas le sou. Il était comme moi quand tu m'as rencontré, bien près de la rivière. Mon gars se relevait la nuit. Il allait à l'armoire où étaient les restes du dîner de cette fille. Et il les mangeait. Elle a fini par découvrir ce manège. Elle a compris cette honte. Elle a eu soin de laisser beaucoup de restes. Elle était bien heureuse. Elle n'a dit cela qu'à moi, dans son fiacre au retour de l'opéra. Le second avait volé, mais avant qu'on ne pût s'apercevoir du vol, elle a pu lui prêter la somme qu'il a pu restituer et qu'il a toujours oublié de rendre à cette pauvre enfant. Quant au troisième, elle a fait sa fortune en jouant une comédie où éclate le génie de Figaro. Elle a passé pour sa femme et s'est faite la maîtresse d'un homme tout-puissant, qui la croyait la plus candide des bourgeoises. À l'un la vie, à l'autre l'honneur, au dernier la fortune, qui est aujourd'hui tout cela. Et voilà comme elle a été récompensée par eux. « Veux-tu qu'il meure ?» dit Herrera qui avait une larme dans les yeux. « Allons, te voilà bien, je te connais. Non, apprends tout, poète rageur !» dit le prêtre. « La torpille n'existe plus. » Lucien s'élança sur Herrera si vigoureusement, pour le prendre à la gorge, que tout autre homme eût été renversé. Mais le bras de l'Espagnol maintint le poète. « Écoute donc, » dit-il froidement. « J'en ai fait une femme chaste, pure, bien élevée, religieuse, une femme comme il faut. Elle est dans le chemin de l'instruction. Elle peut, elle doit devenir, sous l'empire de ton amour, une Ninon, une Marion Delorme, une Dubarry, comme le disait ce journaliste à l'opéra. Tu l'avoueras pour ta maîtresse, ou tu resteras derrière le rideau de ta création, ce qui sera plus sage. L'un ou l'autre partie t'apportera profit et orgueil, plaisir et progrès. Mais si tu es aussi grand politique que grand poète, Esther ne sera qu'une fille pour toi, car plus tard elle nous tirera peut-être d'affaire. Elle vaut son pesant d'or. Bois, mais ne te grise pas. Si je n'avais pas pris les rênes de ta passion, où en serais-tu aujourd'hui? Tu aurais roulé avec la torpille dans la fange des misères d'où je t'ai tiré. Tiens, lis !» dit Herrera aussi simplement que Talma dans Manlius, qu'il n'avait jamais vu. Un papier tomba sur les genoux du poète et le tira de l'extatique surprise. Où l'avait plongé cette terrifiante réponse, il le prit et lut la première lettre écrite par Mademoiselle Esther. À Monsieur l'abbé Carlos Herrera. Mon cher protecteur, ne croirez-vous pas que chez moi la reconnaissance passe avant l'amour, en voyant que c'est à vous rendre grâce que j'emploie, pour la première fois, la faculté d'exprimer mes pensées, au lieu de la consacrer à peindre un amour que Lucien a peut-être oublié. Mais je vous dirai à vous, homme divin, ce que je n'oserais lui dire à lui, qui, pour mon bonheur, tient encore à la terre. La cérémonie d'hier a versé les trésors de la grâce en moi. Je remets donc ma destinée en vos mains. Dussé-je mourir en restant loin de mon bien-aimé, je mourrai purifiée comme la Madeleine, et mon âme deviendra pour lui la rivale de son ange gardien. Oublierai-je jamais la fête d'hier? Comment vouloir abdiquer le trône glorieux où je suis montée? Hier, j'ai lavé toutes mes souillures dans l'eau du baptême, et j'ai reçu le corps sacré de notre Sauveur. Je suis devenue l'un de ces tabernacles. En ce moment, j'ai entendu les chants des anges. Je n'étais plus qu'une femme. Je naissais à une vie de lumière, au milieu des acclamations de la terre, admirée par le monde, dans un nuage d'encens et de prières qui enivrait, et parée comme une vierge pour un époux céleste. En me trouvant, ce que je n'espérais jamais, digne de Lucien, j'ai abjuré tout amour impur, et ne veux pas marcher dans d'autres voies que celle de la vertu. Si mon corps est plus faible que mon âme, qu'il périsse. Soyez l'arbitre de ma destinée. Et si je meurs, dites à Lucien que je suis morte pour lui en naissant à Dieu. Ce dimanche soir. Lucien leva sur l'abbé ses yeux mouillés de larmes. « Tu connais l'appartement de la petite Caroline Bellefeuille, rue Thébout, » reprit l'Espagnol. « Cette pauvre fille, abandonnée par son magistrat, était dans un effroyable besoin. Elle allait être saisie. J'ai fait acheter son domicile en bloc. Elle en est sortie avec ses nippes. Esther, cet ange qui voulait monter au ciel, y est descendue et t'attend. » En ce moment, Lucien entendit dans la cour ses chevaux qui piaffaient. Il n'eut pas la force d'exprimer son admiration pour un dévouement que lui seul pouvait apprécier. Il se jeta dans les bras de l'homme qui l'avait outragé, répara tout par un seul regard et par la muette effusion de ses sentiments. Puis il franchit les escaliers, jeta l'adresse d'Esther à l'oreille de son tigre, et les chevaux partirent comme si la passion de leur maître eût animé leurs jambes.